Je suis pas tête en l'air, mais j'ai oublié ma zapette. Donc c'est Jacqueline qui va être obligée de suivre ce que je dis et de passer les diapos au fur et à mesure. Ouais, d'habitude on pense qu'aux vidéos proches, la deuxième partie du culte, on est tranquille, on peut roupiller, mais là, bon, c'est raté. Désolé. Alors, vous avez l'habitude, hein, quand on revient de vacances, c'est une prédication des fois un petit peu différente, parce que on a vu des choses différentes, on a des inspirations un peu différentes. Et là, on revient d'Alsace, autant vous dire que c'est très différent l'Alsace. Hein. Je fais gaffe, hein. Mais c'est une super région, faut y aller, hein. Faut y aller. Je vais la vendre quand même. C'est une belle région, très différente, avec des particularités culinaires. Hein. Ils mangent plein de choses différentes de nous, la choucroute, le kouglof, les bretzels, la flammkuch, le vin, enfin il y a plein de choses, hein. On n'a pas eu le temps de tout goûter. L'architecture, hein, vous savez, les maisons à colombage, là. Linguistique aussi, hein. Ils ont un petit accent léché, ça s'entend. Mais vous êtes des nordistes, quasiment, c'est pour ça. Il y a plein de choses à raconter, mais il y a un truc que j'ai apprécié, c'est la proximité avec les Vosges et sur beaucoup de sommets, en fait, quand vous êtes en Alsace, alors ça dépend comment vous regardez, mais si vous regardez au nord, vous avez les Vosges à votre gauche et puis vous avez le Rhin et la plaine d'Alsace à la droite et puis la forêt noire un peu plus loin, on voit d'assez loin en fait. Hein. Et sur les Vosges, en fait, je ne vais pas dire à tous les sommets, mais à beaucoup de sommets, il y a des châteaux en fait. C'est blindé de châteaux là-bas. Alors, a priori, j'en entendais parler aussi pendant les informations cette semaine, dans le Médoc aussi. Hein. Chaque terroir, il a son château. Voilà. Mais dans les Vosges, en tout cas, il y a des châteaux. Alors, j'ai vu qu'il y avait un chemin de 450 km, donc qui se fait sur plusieurs jours, hein, en 26 étapes avec 80 châteaux. Voilà. Mais il y en a plus que ça. Hein. Ça, c'est juste un des parcours. Voilà. C'est vraiment... Je trouve que c'est assez particulier des Vosges. On en a un peu dans les Alpes aussi, comme on est amoureux des Alpes, on voit ça aussi. Mais là, c'était marquant. Et celui qu'on avait, on en voyait plusieurs depuis le gîte, mais celui qui m'a marqué, c'est celui qui est tout en haut là-bas. Alors, vous ne voyez pas beaucoup, mais c'est juste pour montrer un peu le contexte. J'ai oublié mon pointeur, donc je ne peux pas vous le montrer, mais vous voyez la petite pointe là-bas. Hein. Donc, c'est le château du Haut-Königsbourg qu'on voyait depuis le gîte. Alors ça, c'est pas depuis le gîte, c'est un peu plus près quand même. Hein. Mais voilà, il est particulier parce qu'il est vachement bien conservé, ils l'ont restauré. Et voilà, il est joli parmi les autres, mais bon, il y en a tout plein. Et comme vous voyez, il est quand même assez en hauteur, hein, il se mérite pour monter là-bas, même si maintenant on peut aller en voiture sur une grosse partie du trajet. Donc je vous montre juste quelques photos, hein, comme ça vous aurez une idée de ce que c'est le Haut-Königsbourg. Je ne suis pas payé par l'office du tourisme du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, je ne sais plus lequel des deux c'était. Voilà, ça c'est une maquette en fait à l'entrée, hein, mais ça nous montre l'aspect complet du château pour vous montrer que c'est pas un petit château. Bon, vous connaissez le château de Morbecque, hein, pour certains, mais voilà, c'est pas voilà. Alors, tu peux passer. Voilà, quand on est au pied du château, voilà, ça fait une belle montagne de caillasse au-dessus de nous et une belle hauteur, hein, ce château. Vas-y. On va pas passer notre vie sur les photos du Haut-Königsbourg, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, pour appâter le client et que vous alliez chez Daniel et Brigitte. Vas-y. Voilà, et quand on est au pied, juste avant l'entrée, là, voilà, on a ça de manière assez massive et ça fait une belle hauteur. Et la photo d'après, voilà, on est en bas et puis on voit les étages, et on a l'impression que ça se termine pas. Hein. Alors, c'est grand angle, donc tout penche un peu partout, mais voilà, ça donne cet effet-là. Et je crois que là... Ah non, voilà, pareil, dans l'autre sens. Et quand on est tout en haut, et c'est l'inverse, hein. On voit tout le château qui descend et puis la plaine d'Alsace. Alors là, c'était brumeux, donc on distinguait quand même la forêt noire. Et voilà, on voyait au moins 50 bornes de loin. Et la dernière, je crois que c'était juste pour les stats, hein, mais c'est un château qui fait 270 mètres de long. Vous ne pouvez pas le lire, hein, mais je vous lis. 40 mètres de large en moyenne, un donjon haut de 62 mètres et un puits profond de 62 mètres. Le tout à 757 mètres d'altitude. Voilà. Donc c'est assez sympa, on le voit de loin, hein. Je vous dis, on voyait du gîte, on était à 15 km, on le voit d'encore plus loin, au nord aussi, forcément il est tout en haut, donc il se voit très bien. Donc c'est un château vraiment très fort, c'est écrit. Voilà. Dans la Bible aussi, il y a des châteaux. Des châteaux, on les appelle des forteresses, là. La première qui est mentionnée dans la Bible, alors dire, je triche un peu, hein. La tour de Babel, ouais. Alors on dit, ouais, je triche, c'est pas une forteresse, la tour de Babel, mais comme l'objectif, c'était de monter le plus haut possible, c'est peu probable qu'ils aient fait une tour de Pise en continuant à monter comme ça, vous voyez. Donc ils ont dû faire des étages, des terrasses pour monter les matériaux, refaire un étage et on monte et voilà, ça se réduit. Parce que sinon, passer un certain stade, la pile, vous savez, c'est un peu le jeu, c'est Jenga, je crois, hein, c'est ça, avec les briques en bois et puis on en retire une et on remonte et bon, au bout d'un moment, ça devient ballant et puis ça finit par tomber. Voilà, celui qui fait tout tomber, il a perdu. Voilà, donc la tour de Babel, ils ont probablement pas fait comme ça, ils étaient intelligents. Et ils ont fait quelque chose assez large à la base pour pouvoir monter. Ça nous est raconté en Genèse 11. Donc c'est les versets qui sont écrits ici. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Donc je vous refais pas toute l'histoire, hein, mais ce qui m'a marqué, c'était l'idée de « faisons-nous un nom ». C'est l'idée quand on fait un château fort, ou enfin, moi je fais pas de château dans la vie, hein, mais j'imagine ceux qui construisent les châteaux, qui le font construire souvent, c'est d'aller le plus haut possible, de se faire un nom. Alors, château fort, il y a fort dedans quand même, hein. À une certaine époque, ça permettait de se défendre. Et donc, on faisait le plus haut possible. Comme ça, on surplombe bien l'ennemi. Lui, il ne nous atteint pas. On le voit de loin arriver aussi. Mais voilà, c'est à celui qui a le plus gros château, le plus fort, le plus grand. Et c'est celui qui a le plus la classe, quoi. C'est une marque de pouvoir, en fait, le château. Alors, dans le Médoc, dans le reportage cette semaine, j'avais déjà préparé, hein, j'avais déjà l'idée en tout cas. Il montrait voilà, les châteaux, mais c'est vite devenu des châteaux d'apparat, en fait, hein, qui étaient là juste pour montrer au seigneur qui avait le plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'influence dans la zone, qui avait le plus grand château. Et il dépensait un maximum d'argent. Nous, à notre époque, je ne sais pas, hein, c'est une belle voiture, une belle maison. Celui qui a la plus grande villa qui coûte je ne sais pas combien de millions, là, c'est pour montrer qu'il est riche, qu'il a de l'influence. On revient finalement sur ce que disait Daniel la semaine dernière, hein, de laisser une trace. Alors Daniel l'avait dit beaucoup plus poétiquement que moi, avec la neige et tout ça par terre, mais ça reste ça en fait. L'inconvénient des châteaux forts, c'est que passé certains âges dans l'histoire, il y a la poudre qui est arrivée, et ça tenait moins bien. Alors on a épaissi les murs, on a fait encore plus costaud, hein, mais ça finit par craquer à un moment donné. Et donc il n'est resté finalement que la classe, la para. Impressionner les gens par le château. Alors on en a perdu beaucoup. Hein. Là, je vous montre celui-là. Il y en a plein, ils sont en ruine en Alsace, en fait. Hein. On n'a pas tous n'ont pas été reconstruits. Donc, ils ont, au fur et à mesure des guerres, ils ont été détruits. Plus proche de nous dans le temps et géographiquement, hein, il y a un autre château qu'on n'a pas loin, alors qui fait pas très classe, hein, mais qui faisait quand même, c'est moi le plus fort. Le Blocos des Perlecs, vous connaissez? Ouais, bah, c'est un peu même genre qu'un château fort, en moins beau forcément, hein, c'est du béton. Mais voilà, ça servait de base de lancement au V2. Et c'est à peu près des dimensions équivalentes. Hein, j'avais lu 200 mètres de long, 90 mètres de large, 130 000 tonnes de béton. Voilà. Je suis allé le voir quand j'étais au collège, il y a quelques années. Et il y avait dedans un missile, en fait, un obus, je ne sais pas trop quoi, une bombe américaine ou anglaise qui était dedans et qui était enfichée dans le plafond et on la voyait dépasser par en dessous. Donc le plafond était crevassé et voir l'épaisseur du béton, rien que ça, on fait « Waouh !» Et ça, alors moi j'étais gamin à l'époque, hein, donc forcément ça jette encore plus, mais ça impressionne toujours. Alors si vous y retournez, il n'y est plus, ils l'ont enlevé en 2009, c'est dommage, mais voilà. Et là, quand Dieu il a vu ça, la Bible ne nous dit pas, il a dit « Waouh !» Mais il y a un peu de ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas que Dieu il est impressionné par ce qu'on fait. Hein. Mais quand Dieu il voit ça, il se dit, ça va marcher leur truc là. Ça va marcher. Donc, c'est pas qu'il est impressionné, mais il reconnaît qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se faire et qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, surtout. Donc, c'est les versets suivants, Genèse 11, versets 5 à 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Vous voyez, il reconnaît quand même que ce qu'ils sont en train de faire, ça pourrait aboutir. Alors, aboutir, c'est pas « la tour ira jusqu'au ciel hein, », parce que ça, voilà, c'est pas possible, vous le savez. Mais bah, c'était un seul peuple, et voilà, on est unis, et nous, on est quelqu'un, on se fait un nom. Donc, il dit... rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors pourquoi est-ce que Dieu l'a stoppé leur travail? Parce que ce n'était pas à sa gloire, c'était à la leur en fait. Et ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que là, ils étaient en train d'avoir les chevilles qui enflaient. Ils disaient, oh, regardez ce qu'on fait, nous les hommes. Et ça, c'est un discours qu'on entend encore maintenant, en fait. Hein. L'humanité, on va faire des choses de grand. On va aller sur Mars, on va construire je ne sais pas trop quoi. On fait des intelligences artificielles, on fait toutes sortes de choses. Hein. On va lutter contre la mort, contre la maladie. Alors, on pense que c'est vain, mais voilà, il y a des gens qui y croient hein, jusqu'au bout. Et qui mettent les moyens pour le faire aussi. Comme dans ces châteaux, dans le blocos, là ici, la tour de Babel, il y a des moyens. Hein. Le blocos des Perlex, c'est beaucoup de gens qui sont morts à couler du béton, à porter les choses, avec les tirs et les obus, parce qu'il était bombardé, ce blocos. Les châteaux, c'est pareil, hein, c'était de la main-d'œuvre pas cher. C'est pour ça qu'on dit que c'est le seigneur qui a construit le château. Il a fait construire le château. Et il y a des esclaves qui sont morts pour aller le construire. Et donc là, il y avait probablement de ça aussi. Dieu, il a probablement vu aussi la misère des gens qui étaient là, qui subissaient ça, pour dire, ah, regardez, on va faire un grand château, ça va être un seul peuple, un seul nom. Ils voulaient leur indépendance, quelque part. Nous, on est grands, on n'a pas besoin de Dieu, on est un grand peuple. Et ça, cette notion de « je suis grand, je vais faire quelque chose de grand », eh ben, on la retrouve chez quelqu'un qui était avant Genèse, en fait. C'est la même chose pour le malin. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit en Ésaïe 14. Ta magnificence, c'est versets 11 à 15. Alors, je suis obligé de prendre certains versets, sinon on lit tout le chapitre. Hein. Mais juste ce passage-là, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Et ça, c'est Satan. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et voilà pourquoi Dieu, il arrête Babel, en fait. Parce qu'il sait que ça mène à la mort, l'orgueil. Et donc, il est obligé d'arrêter ça, de disperser les hommes, et on va voir avec le temps qu'il va pourvoir, alors pas aujourd'hui dans la prédication, mais dans la Bible, on voit qu'il pourvoit une solution à ça. Il pourvoit un salut pour les hommes. Mais si les hommes, ils étaient restés un seul peuple unique et tout ça, quelque part, ils avaient leur indépendance et ils n'avaient pas besoin de Dieu. Alors, est-ce que nous, on construit quelque chose? Vous allez me dire, moi, je ne construis pas un château. Hein. La maison, je l'ai achetée toute faite, je ne l'ai pas faite construire non plus. Qu'est-ce qu'on construit? Est-ce que ce que je construis dans ma vie... Alors, peut-être, vous allez me dire, moi, je ne construis rien. Ça s'arrête là, point barre. Bah, c'est dommage. Parce que dans la Bible, on nous incite à construire. On nous incite à construire l'Église. On est tous des ouvriers avec Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux anciens, aux missionnaires, aux évangélistes ou à d'autres personnes. On est tous appelés à contribuer à cette construction-là. Alors contribuer parce qu'on est des pierres. On est des pierres vivantes, on contribue à l'édifice. Mais en même temps, on travaille pour ajouter des pierres, pour amener d'autres personnes. Donc, si vous me dites, moi je ne construis rien dans ma vie... Bon, bah déjà, voilà, posez-vous la question, dire, mince Seigneur, comment je peux t'aider à construire? Montre-moi, donne-moi les instructions. Oui, ça compte aussi, ouais. Alors souvent, on construit des choses moins glorieuses, hein, on se construit une carrière, on se construit une réputation, une image, on peut construire tout un tas de choses. Hein. Et est-ce que ce qu'on construit, une fois qu'on a déterminé ce que c'est à notre gloire, à nous, comme la tour de Babel, comme le château? Ou est-ce que c'est à la gloire de Dieu? C'est des questions à se poser, hein, dire ma vie, quel but elle a en fait? Qui elle glorifie? Si tout ce que je fais dans ma vie, ça construit quelque chose qui est pour moi, pour montrer que Michael, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de grand, pas en hauteur, hein, mais quelqu'un de voilà d'important, bah, je me trompe complètement. Et Dieu, peut-être qu'à un moment donné, il devra mettre de la confusion, il devra mettre Babel, me disperser, en dire mais ce que tu es en train de faire, ça mène à la mort. Je ne vais pas faire le tour des forteresses mentionnées dans la Bible. Hein. J'en prends juste une autre, en fait, dont il est question en 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 10. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Forteresse, hein. Ce coup-ci, je triche pas. C'est la cité de David. Et David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela « Cité de David ». Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le restant de la ville. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Donc là, on n'est pas à la même époque, hein, on est à l'époque des juges. Saül, qui a précédé David, était le tout premier roi. Et finalement, à ce moment-là, tout le pays n'est pas conquis. Il y a voilà, des endroits où on a laissé les peuples de l'époque rester au milieu d'Israël, et ils sont devenus des sources d'ennui pour Israël, en fait. D'ennui parce qu'ils leur faisaient la guerre dès qu'ils le pouvaient, et puis surtout, ils les attiraient dans l'idolâtrie. Et cette ville de Jébus, là, elle fait partie de ces poches de résistance. Il y avait des gens là, on n'avait pas réussi à les détruire à l'époque de Josué. C'était une guerre, hein, donc les mots sont un peu durs, mais c'était l'histoire comme ça. Et donc, dans Josué 15, verset 63, on nous le dit, « Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » Donc, ils étaient trop forts. Et probablement que leur forteresse, elle y était pour quelque chose, en fait. Parce qu'ils avaient un point haut, ils avaient un moyen de se défendre et pas moyen de les faire tomber. Donc, après tout... on va arrêter de s'échiner à essayer de les battre, ils vont rester là au milieu et puis finiront par se mélanger à nous. Et voilà, on n'en parlera plus, quoi. Ça devait être un peu ça, hein, la réflexion de l'époque. De toute façon, on n'y arrive pas. Donc c'est comme ça. Les Jébusiens eux-mêmes se pensaient imprenables. Hein. Alors, il y a un parallèle, hein, souvent entre Samuel et un roi et Chronique. Et dans l'autre, là, on a lu quoi ? Chronique. Du coup, dans Samuel... C'est ça. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. On s'est dit joliment, voilà, si tu crois que tu vas rentrer, tu rêves, dit dans notre langage à nous. Et même les boiteux, même les aveugles te repousseront. Donc la moindre personne, la plus petite d'entre nous, elle te repoussera et tu rentreras pas. Et ça, c'est ce que l'ennemi nous souffle. Tu rêves. Si tu crois que tu vas te débarrasser de ça, de cette forteresse-là, tu rêves. Tu pourras jamais. C'est beaucoup trop dur pour toi. Puis, de toute façon, ça fait un moment que ce truc-là il est dans ta vie. Tu le tolères, finalement. Ça va passer, et puis ça va. Avec le temps, ça va se faire, quoi. Hein? C'est la même chose qu'avec les Jébusiens. Hein? L'ennemi nous fait croire que cette forteresse, elle est imprenable. Et David, il aurait pu écouter ces gens, se dire, ouais, bon, il y a des gens, et Josué, quand même, avec la carrure qu'il avait, c'était un chef guerrier, il n'a pas réussi à conquérir ça. Les gens de Juda non plus. Du temps de Saül, pas mieux. Est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, finalement, hein? Quand ils me disent qu'on est imprenable, ils ont peut-être raison, en vrai. Et on peut être prompt à écouter comme ça hein, l'ennemi, pour tout un tas de raisons, se dire, ouais, je vais quand même aller envoyer pas mal de gens se faire tuer hein, pour essayer de conquérir cette ville-là. Donc, faut réfléchir un peu au coup que ça a d'aller lutter contre ça. Vous voyez, il y a toutes sortes de moyens que le malin utilise pour essayer de nous insinuer le doute et nous dire... N'y va pas, cette forteresse, laisse tomber, tu la prendras jamais. Alors vous avez, je pense, chacun idée de ce que ça peut être la forteresse dans votre cœur. Hein. On lutte des fois avec certaines choses. Je pense forcément à une addiction, parce que ça, c'est vraiment dans un cœur, c'est une forteresse en fait. Quand on est addict à quelque chose, ça paraît imprenable, je pourrais jamais m'en débarrasser. Et à chaque rechute, j'y arriverai jamais. Et le malin, il en profite. On ne sait pas ce qu'il a pensé, David, parce qu'on n'a que ces versets-là, hein, et voilà. Mais il n'a certainement pas dit dans son cœur, « Ouais, d'accord, je laisse tomber. » On voit sa réaction, en fait. On ne sait pas sa pensée, mais on voit sa réaction, donc on devine sa pensée. Mais l'Éternel, il nous l'a donné, ce pays, en entier. Il n'a pas dit qu'on allait garder quelques endroits comme ça. Il nous a dit, « Tout ce que vous foulerez de la plante de vos pieds, vous l'aurez. » Donc on va y aller. Et en fait, après, c'est un peu, c'est presque un défi. Hein. Le premier qui est en haut là-bas, avec le drapeau d'Israël, il est chef. Et ça marche. Enfin, ça marche. C'est pas un truc, hein. C'est pas, suffit pas de balancer ça un cadeau aux gens et dire, tu vois, si t'arrives à faire ça, t'auras tel cadeau. C'est pas ça. Mais on voit sa foi, en fait, qui est là. et qui dit « il n'y a rien d'imprenable ». Le premier qui est en haut, ça veut dire qu'il y en aura d'autres en fait. Hein. On va l'avoir et je vais récompenser parce que je sais qu'on l'aura. C'est une certitude dans son cœur en fait. Et on le sait parce que David, il a lutté avant en fait, contre d'autres forteresses. Il a lutté contre Goliath, qui était aussi une forteresse humaine. Hein. C'est un grand bonhomme, très fort. Et David, à l'époque, il n'était pas grand-chose. Et il l'a battu. J'avais un autre exemple en tête, mais je l'ai perdu. J'ai bu. Il y a eu Jéricho, même si ce n'était pas lui à l'époque. Mais voilà, il sait que ça s'est passé comme ça aussi. Hein. Une forteresse, des murs imprenables. Et sans combattre, ça tombe parce que le Seigneur l'a décidé. Donc lui, il le sait, ça. Et plutôt que d'écouter le malin qui lui dit « laisse tomber, c'est mort », il dit bah, « on va y aller et on va l'avoir ». Et Joab, alors avec tous les défauts qu'il peut avoir, hein, qu'on voit dans la parole, il prend ça à cœur, il y va et il dit bah, « moi, je vais y arriver ». Et il bat effectivement cette ville. Alors est-ce que nous, on s'appuie sur les promesses de Dieu? Parce que je pense que le cœur de ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit « tout ce que vous allez fouler aux pieds, c'est pour vous. Ce pays-là, je vous le donne ». Et là, quand, une fois qu'on a cette parole-là, on peut y aller, en fait. Alors, il y a plein de subtilités, en fait, parce que il y a eu plein de manières différentes de combattre. Là, ici, on a l'impression que Joab, il y va, et puis en force brute, quoi. Hein. Mais on n'a pas de détails, hein, c'est moi qui invente. Mais voilà, il y va avec l'armée, et puis il combat la ville, il abat. Jéricho, on voit que Dieu l'a demandé, pas de combattre, mais justement de rester, de faire le tour en silence, et c'est lui qui a fait tomber la ville. On voit sur Haï aussi, qui était une forteresse, hein, le peuple a perdu plusieurs fois et Dieu leur dit, bah voilà, maintenant vous allez poster une équipe par là, une équipe comme ça, et vous allez placer une embuscade et l'abattre. Donc il y a toutes sortes de manières de gagner en fait, contre l'ennemi. Mais ça dépend de Dieu. À chaque fois, c'est Dieu qui dit, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, là tu fais ça comme ça. Il y a des fois, Dieu il dit, n'y va pas. Alors c'est rare. Parce que si l'ennemi il a une position quelque part dans notre vie, dans notre cœur, je vois pas Dieu dire bah non, soit laisse tomber, garde-le, c'est pas gênant. Ça, c'est pas ça. Mais il y a des fois des choses où Dieu dit voilà, cette porte-là, je la ferme et tu passeras pas par là. Mais ça, en général, c'est pour nous emmener ailleurs. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand Israël il est arrivé dans le pays promis, Dieu lui a dit cet endroit-là, tu touches à rien. Tu n'y passes pas, tout ce que tu fais, tu le payes. Alors je sais plus, je mélange un peu les deux, il y en a un où il dit tu passes pas, et l'autre il dit tout ce que tu prends dans ce pays, tu le payes, parce que c'est pas à toi. Alors c'est le verset d'après, que tu as déjà affiché, merci. Deutéronome 2, verset 4 à 6, donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Par là, vous passez et vous ne touchez à rien, c'est pas à vous. Les versets d'après, versets 8 à 9, nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine, d'Elath et d'Edzon-Guéber. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Et l'Éternel me dit, deuxième fois, n'attaque pas Moab, ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Deux fois, c'est vraiment pour moi les seules fois presque où Dieu y dit, n'y va pas, parce qu'il a donné ça à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse l'appliquer dans notre cœur à un problème qu'on aurait et dire, voilà, le Seigneur, il dit, n'y va pas, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Mais c'est vraiment dans certains domaines de notre ville, le Seigneur dit ça, c'est un tel qui va s'en occuper. Peut-être un domaine de la ville, peut-être un domaine de l'église ici. Ça, laisse-le, j'ai prévu quelqu'un d'autre. L'équivalent dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Paul, c'est ça. Oui, qui est empêché d'aller à certains endroits. Donc ça, c'est acte 16, versets 6 à 8. Et ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et on voit qu'à Troas, là, il y avait un plan de Dieu pour Paul et pour ceux qui l'accompagnaient. Ces régions-là, elles ont été évangélisées quand même, mais plus tard, par quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas y aller. c'était comme ça, Dieu avait besoin de Paul à Troas. Et donc, il faut, je dis tout ça, en fait, tous ces exemples-là, c'est l'idée de chercher la volonté du Seigneur dans notre vie. Et de ne pas dire, voilà, moi j'ai une forteresse, j'y vais avec mes deux petits bras et je vais être très fort parce que le Seigneur est avec moi. C'est pas ça, en fait. C'est la confiance dans la parole de Dieu. Et David, il s'appuyait là-dessus. Et nous aussi, et si on a quelque chose dans notre vie, il faut qu'on aille auprès du Seigneur. Et on dit, bah, Seigneur, comment on fait les choses? Montre-moi. Parce que c'est lui qui dirige les choses, en fait. C'est pas nous. Et c'est pas une question de, non plus de positivisme, de dire, oui, tout va aller bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je suis chrétien et donc tout va toujours bien passer. Ben non, il y a des chrétiens qui meurent pour leur foi partout dans le monde. Donc il y a des plans du Seigneur et nous on s'inscrit dans ces plans-là en fait. On n'est pas en train d'innover dans notre bataille. Il y a des moments aussi. Il y a des moments et le meilleur exemple de ça, ben, c'est encore une fois le peuple dans le désert. Parce qu'ils arrivent aux portes du pays, hein, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, je résume. Mais ils arrivent au bord du pays, ils envoient des espions et les espions viennent, ouais c'est bien, il y a ça, ça et ça. Mais alors les gens du pays... Ils sont super grands, super forts, ils ont des villes, des forteresses, et jamais on n'y arrivera. Et là, vous voyez encore une fois, le malin qui dit « jamais on n'y arrivera ». Et il y en a deux à côté, « mais non, mais le Seigneur, il est avec nous, il nous a dit qu'on l'aurait ce pays, donc on y va, hein, Josué et Caleb. » Et oh, on n'ira pas, c'est mal. Et après une nuit de réflexion, on n'y va pas. Et donc Dieu les punit pour ça, en fait. Il leur dit, ben, vous voulez pas y aller, d'accord, vous allez retourner dans le désert maintenant et vous passerez 40 ans là. 40 ans dans le désert et la génération suivante, elle ira dans le pays. C'est dur, hein, parce qu'ils ne sont pas bougés au bon moment en fait. C'était le moment, l'ordre de Dieu d'y aller. Ils n'ont pas fait confiance. Alors, ce n'est pas qu'une question de désobéissance, c'est une question qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Ils se sont dit, ils sont grands, ils sont forts, nous on est dégringalés à côté, donc on ne peut rien faire. Mais Dieu leur a dit, je vais être avec vous, je vais les faire tomber, ces villes, devant vous. Le lendemain, allez, c'est vrai, on va y aller, on va gagner, on va y aller. Et Moïse leur a dit, non, trop tard, Dieu il a dit, c'est plus maintenant. Ils y sont allés, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait massacrer, parce que c'était plus le moment. Je crois que je l'ai pris dans les versets, ah bah oui. Nombre 14, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. » Vous voyez, le point crucial, c'est ça. Hein. Est-ce que le Seigneur, il est avec nous ou pas avec nous? Et s'il est avec nous, qu'il nous dit « Voilà, va, je t'accompagne, je serai avec toi », alors il n'y a aucun souci à se faire. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'Arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Taillés en pièces. Le plus important, c'est qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Et pas juste est-ce qu'il veut me délivrer d'un péché ou pas, ça c'est oui la réponse. Mais comment il veut le faire, quand il veut le faire? Et se dire, Seigneur, montre-moi comment faire les choses. Alors je reviens sur l'idée de Jébus, qui est appelé Jérusalem. Hein. David, il conquiert la ville. Voilà. Il bat la ville, il en fait la sienne. Il en fait sa capitale. C'est pas rien quand même. Hein. Et le passage qu'on a lu, il nous dit que David a fait des constructions de toutes parts autour de Millau. Et très probablement, il a encore fortifié. Il a encore mis des murs, il a encore élevé des tours, des défenses, tout ce qu'il pouvait pour que ça soit imprenable. Parce que finalement, elle avait beau l'air d'être imprenable, elle avait été prise. Donc c'est qu'il fallait faire mieux encore. David, c'était un chef de guerre quand même. Hein. Donc voilà, il a amélioré encore la forteresse. On dit que Joab, lui, s'est occupé de la ville. Donc c'est que Joab... C'est que David, lui, s'est occupé de la forteresse de la tour. Donc, on pourrait dire, ah ben voilà, David, il est riche, il est puissant, il a sa grande forteresse. C'est pour ça, en fait, qu'il ne craint plus rien. Et le cœur de David, ce n'était pas ça du tout. Il a eu beau avoir une forteresse à lui, aussi grande, aussi belle qu'on veuille, il ne s'est jamais confié dans cette forteresse-là. Et il y a des tas de versets qui nous montrent que David s'est toujours confié en l'Éternel et que c'était l'Éternel, sa forteresse. Alors, je vous en prends trois, mais il y en a plein. Mais après, ça vous montre juste que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. 2 Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Psaume 18. Du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. » Et le psaume 91 hein, qu'on connaît, qu'on chante des fois. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. » Vous connaissez le psaume et le chant. Hein. « Mon refuge et ma forteresse. » Il le dit, il le répète, il le re-répète dans les psaumes. Le cœur de David, ce n'était pas « je me confie dans ma richesse, je me confie dans ma puissance, dans mes villes, dans ma capacité militaire, dans mon intelligence, dans tout ce que je veux. » Je me confie en Dieu avant tout. Et c'est ça qui est important. Et on a vu quelques idées hein, sur ces forteresses. Hein, la forteresse où c'est l'homme qui monte, qui se fait grand et puissant, qui est la marque de son nom à lui. Là, on voit la forteresse, on se croit imprenable. Et on voit que David, sa vraie forteresse, c'est Dieu. Alors bien, finalement, c'est un cas bizarre parce qu'il a une vraie forteresse, lui, mais il ne se confie pas en ça. Alors c'est quoi notre forteresse à nous ? Alors pour certains, c'est l'argent. C'est peu probable ici, mais tant pis, je le dis quand même. J'ai ce qu'il faut sur mon compte en banque, alors je risque rien. C'est ça ma forteresse. Hein. Bon, ça dure pas très longtemps. Hein. Ça peut partir comme ça d'un seul coup. Pour d'autres, c'est le pouvoir, alors, qui est souvent lié à l'argent, mais pas que. Alors là aussi, pareil, on n'est pas trop bien pourvu dans l'église, donc c'est tant mieux. Je connais des gens bien placés, hein, donc il peut rien m'arriver. Et ça, on entend très vite hein, autour de nous. Moi, je connais, des fois, ça vole pas haut. Hein. Moi, je connais le maire, hein, alors tu vas voir. Mon père, c'est le président de la République. Alors, voilà, il va faire analyser mon scooter. Je suis sportif, je mange bien, je suis en bonne santé, il peut rien m'arriver. Ah, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être sportif, même si je suis mal placé. Je suis pas en train de dire qu'il faut mal manger, hein, mais... On ne peut pas se confier en ça pour dire, voilà, moi je fais attention à ma santé, il ne m'arrivera rien. Il y a même des gens très bonne santé qui meurent rapidement. Il y a tous les cas de figure de toute façon. Il n'y a pas de règle dans ce qui nous entoure dans l'humanité. Ce qui est mal, ce n'est pas d'avoir des richesses, ce n'est pas d'avoir une bonne santé, ou d'avoir du pouvoir quand le Seigneur l'accorde, c'est de se confier en ça en fait. Et ça, c'est Jésus qui nous le dit. Alors je prends juste deux passages, hein. C'est juste sur la richesse et sur l'homme, mais ça nous montre quand même bien l'idée. En Marc 10, verset 23, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les disciples, oh, mince, donc celui qui est riche, zut. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et peu importe la forteresse qu'on se construit, Dieu il peut la faire tomber. Et en fait, à un moment donné, il la fera tomber, pour lui pouvoir prendre cette place-là. Ésaïe 2, verset 22, cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Là aussi, hein, si mon père c'est un tel, ou je connais, je suis le copain d'eux, ou j'ai un copain dont le père c'est le cousin de la famille d'eux. Ça peut aller loin des fois l'influence qu'on a comme ça. On se réfugie derrière des choses comme ça, on a l'impression que du coup on est protégé alors qu'en fait c'est rien du tout. On peut mettre sa confiance en sa propre intelligence aussi, dire bah... Moi, je vais toujours m'en sortir parce que j'ai toujours les bonnes idées pour trouver. Il y a des gens qui sont malins comme ça, hein, ils arrivent à slalomer avec tous les problèmes. On peut mettre sa confiance en sa force physique. Vous comprenez, depuis le début, je ne me cite pas moi, hein, je prends que d'autres exemples. sa capacité à manipuler les gens, à appartenir à un groupe politique, à une association. Je fais partie de telle association, donc voilà. Je peux me confier en l'humanité aussi. Ça, je l'ai parlé tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que l'humanité, ça va, on va s'unir, et on va revenir à Babel en fait, hein. On va s'unir, faire un grand peuple, on arrivera à des grandes choses, parce que l'homme, il est fort, il est intelligent. Voilà. Ouais. Tous ensemble, on sera invincible. Il y a un grand blanc là, personne qui y croit, c'est bien. Mais c'est ce que pensent certains. Hein. Nous, ça nous paraît utopiste, mais il y en a qui le pensent vraiment. Alors, il y en a, ils sont partis de l'inverse. C'est l'homme, attention, il est en train de tout casser. Moi, j'ai confiance en moi, et moi, je vais prendre les précautions. Je vais me construire. Alors, monsieur Zuckerberg, il fait construire un blocos pour survivre à l'apocalypse nucléaire. Il y en a, il prévoit d'aller sur Mars pour se planquer là-bas. Voilà, c'est chacun, il a son truc, en fait. Hein. Chacun, il a sa forteresse en mode de protection et dire là, moi, je risque rien parce que. Et la forteresse, c'est ça. Moi, je suis en haut de ma forteresse, je vois les gens arriver là-bas, ils sont tout petits, ils peuvent rien contre moi. À la fin, on a parlé de Babel, tout à la fin, on voit effectivement que l'humanité va s'unir. Parce qu'on rigole avec ça, on dit, ouais, c'est utopique. Mais non, il va y avoir une humanité bien, bien regroupée. Le problème, c'est qu'elle va perdre contre Dieu et que Dieu va la détruire. Il y aura effectivement plus de morts, plus de maladies, plus de soucis, plus de larmes, tout ça. Ça, la Bible nous le décrit. Mais sans cette humanité qui sera regroupée contre Dieu. Encore une forteresse qui tombe. Alors, il y a une grande majorité d'entre vous qui vont me dire, bah, moi, tous ces trucs-là, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas fort, je ne suis pas grand, je ne suis pas riche, je ne suis pas puissant, je connais personne d'important. Et donc, bah, tu prêches pour rien, quoi. Mais je pense qu'en fait, notre incapacité, notre faiblesse, on peut l'ériger en forteresse, en fait. Dire, moi, je ne peux rien faire pour le Seigneur, je suis trop petit. Je ne peux rien faire. De toute façon, je ne connais personne, je ne suis pas riche, je ne suis pas puissant, je ne suis pas, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De toute façon, personne ne s'intéresse à moi, donc je risque rien, en plus, puisque je suis rien, je suis dans le nombre, là, personne ne me voit. Et en fait, ça, quelque part, on se construit une forteresse autour de nous aussi, avec nos défauts. On est fort, hein, quand même, quand on est humain. On construit une forteresse avec ce qu'on ne sait pas faire en disant voilà, ça me protège parce que moi, de toute façon, je ne sais pas. C'est une technique au travail hein, aussi. Vous savez, des gens qui n'ont pas envie de travailler, oh, moi, je ne sais pas faire. Ah, tu vas le faire. Moi, je ne dis pas les choses comme ça à mes collègues, hein, mais voilà, il y a des chefs qui vont un peu brutalement, ah, tu vas le faire, et puis c'est tout. Je ne discute pas. Les gens, ils font n'importe quoi, et comme ça, la fois suivante, on ne leur donne plus. Vous voyez, c'est une défense. Est-ce qu'on est comme ça avec le Seigneur? Seigneur, pas moi, je suis trop petit. Je peux rien faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y en a qui ont essayé, hein. Ils ont eu des problèmes. Jérémie, je suis trop petit, je suis trop jeune, Seigneur. Moïse, dont on a parlé tout à l'heure, je ne sais pas parler, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Envoie quelqu'un d'autre. Voilà. Ce n'est pas des exemples comme ça juste dans ma tête, hein. C'est des exemples qu'on voit dans la Bible, en fait, tout ça. Ça peut être plus vicieux aussi chez les chrétiens. Moi, j'ai confiance dans la Bible. C'est tout ce que la Bible dit, tout ce que moi je comprends, c'est comme ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à la Bible, hein, d'accord? Au contraire. Mais en fait, on ne fait pas confiance à la Bible pour la Bible. C'est un peu comme si quelqu'un vous envoie une lettre pour dire quelque chose. En fait, s'il vous dit, voilà, je vais te donner, je ne sais pas, c'est le notaire, allez, tiens. Il vous dit, je te donne un héritage, tu vas hériter tant. Bon, il ne me tutoie pas le notaire, hein, je ne le connais pas non plus. Je n'ai pas de contact. Mais vous recevez un courrier qui dit, vous allez recevoir 1 million d'euros. C'est sérieux, hein, ce n'est pas tous les trucs que vous recevez par courrier là, qui disent que vous avez tout gagné sans rien faire. Mais vous croyez dans le courrier, mais en fait, vous croyez surtout dans celui qui vous le donne derrière. Vous faites confiance que parce que c'est le notaire, vous allez bien le recevoir. Par contre, si c'est l'association des bienheureux, de ceux qui ont tout gagné dans la vie, machin, voilà, on se marre bien avec les enfants parce que May, elle reçoit des courriers comme ça d'une, je sais pas, une société, je sais pas ce qu'elle vend, en fait, ça m'intéresse pas. Mais elle reçoit des courriers, Madame Terrier, vous avez gagné ci, ça, machin, et vous avez le sceau de la prospérité qui est sur vous, et des trucs, mais. Mais c'est super rigolo à lire, en tout cas, on se marre bien. Là, on n'a pas confiance, pourquoi? Déjà, on ne les connaît pas. Et puis, quand on lit, on se rend compte que c'est des charlatans, quoi. Donc, si je fais confiance à la Bible, c'est parce que je connais son auteur, en fait. Et c'est en lui que je fais confiance. Parce que la Bible, elle est très bien, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on peut l'interpréter mal, on peut mal la comprendre, se dire, bah tiens, moi, le Seigneur, il me dit d'aller là, et puis on se plante complètement, parce que c'est pas ce que le Seigneur, il avait dit. Donc il faut vraiment connaître son auteur et lui faire confiance à lui, en fait. Le château du Haut-Königsbourg, pour revenir à notre sujet de départ, hein, il a été détruit. Là, il est tout beau, hein, mais il était reconstruit. Il est tombé en ruine, en fait. Alors, je l'ai lu, hein, parce que je ne suis pas bon en histoire. Il tombe en ruine après les années 1500. D'accord. Donc il a fait quelques siècles, hein, en bon état. La famille des Tirstein, à qui il appartient, elle n'a plus les moyens de l'entretenir. Et donc il tombe en ruine. Donc vous voyez, on se construit des forteresses et des fois, bah, on n'a plus les moyens de l'entretenir et ça finit par tomber de soi-même. Il est encore détruit, alors ce qui en restait déjà, hein, est détruit en 1633 par les Suédois qui s'opposent à l'Autriche. Voilà. Bon, les Suédois qui viennent en Alsace. Vous voyez, tout le monde vient en Alsace. Il faut y faire un tour. Et il y a encore un incendie qui fait qu'il est laissé à l'abandon. Et c'est seulement dans les années 1900 qu'il y a, merci aux Allemands, un empereur, Guillaume II, qui le fait reconstruire et qui fait qu'il retrouve sa beauté comme ça. D'accord. Toutes les forteresses qu'on construit, elles finissent par tomber. Elles finissent tous par être détruites. Alors il y en a juste par la guerre, d'autres parce qu'elles sont abandonnées, d'autres parce qu'on n'a plus les moyens. Il y en a certaines qui ne servent à rien. Alors je n'ai plus le nom en tête, hein, mais on a construit des châteaux, des fois, les ennemis sont passés, l'ont contourné, et puis voilà, super, le château il est en plein milieu, mais il ne sert à rien. On a fait ça avec la ligne Maginot, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on construit, nous, dans notre vie? Je reviens sur mes questions, hein. Il faut vraiment faire attention à ce que le Seigneur, ça soit pour sa gloire et ça soit suivant ses consignes à lui, en fait, ce qu'on construit. Parce que sinon, ça finira par tomber de soi-même, ou l'ennemi le fera tomber, ou le Seigneur devra mettre de la confusion et tout faire s'écrouler pour que lui puisse enfin construire quelque chose. Je termine avec ce verset, Ésaïe 26. Je n'ai pas raté encore de route, non. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Je vais prier pour finir. Seigneur, merci pour ces beaux bâtiments, ces beaux châteaux. Seigneur, on a plaisir à les regarder, à les visiter. Mais on sait, Seigneur, que ça ne sont que des constructions humaines. Et on te prie que nous-mêmes, on ne fasse pas des constructions humaines, des choses qui viennent de nous, et que tu n'as rien demandé. On te prie qu'on soit à ton écoute, qu'on puisse participer à construire l'Église, la famille, les choses que toi tu nous demandes de construire, et Seigneur qu'on le fasse à la manière dont toi tu nous le dis. Je te prie aussi pour les forteresses que le malin a bâties dans nos vies, et il nous fait croire qu'on peut rien faire contre ça. Merci Seigneur parce que c'est faux. Et Seigneur, toi tu donnes la puissance, tu donnes les consignes, tu donnes tout ce qu'il faut pour vaincre ça, Seigneur, pour faire tomber ces forteresses et que tout le pays t'appartienne dans notre cœur. On te prie qu'on continue de marcher avec toi, Seigneur, qu'on soit à l'écoute de tes consignes, qu'on soit obéissant et qu'on soit obéissant au bon moment, Seigneur.